temps, contre-temps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour, soyez Bonjour. Les bienvenus à l'écoute de Canal Academy et de son émission Temps contre temps, qui vous propose aujourd'hui une émission portrait consacrée à un grand patron français qui a été président de tous les patrons. C'était en 1981, président du CNPF et qui est aujourd'hui devenu le MEDEF. L'entreprise, la vie de l'entreprise reste au cœur de toutes ses réflexions, ses prises de position, de ses actions, de ses engagements et au cœur de tous les ouvrages qu'il a écrits, le dernier en date étant La moyenne entreprise, championne de la croissance durable. Nous avons en effet le grand plaisir de nous entretenir pour vous aujourd'hui avec Yvon Gattaz, académicien de plus attaché à l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Gattaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né le 17 juin de l'année 1925, c'était en Isère, à Bourgoin. Alors, quels sont vos souvenirs liés à ce terroir, à cette région, vos souvenirs liés à votre enfance?
Mais vous savez, je suis né dans un milieu d'enseignants. Mes grands-parents étaient déjà enseignants, directeurs d'école, comme on disait à l'époque. Et c'était, tous ces gens-là étaient des gens de noblesse de caractère, de travail, on dirait peut-être aujourd'hui d'austérité. Nous avons été élevés, mon frère et moi, dans un milieu de travail scolaire et universitaire. Il fallait être bon à l'école, il fallait être premier, il fallait avoir le prix d'excellence, n'est-ce pas ? C'était ça le but de cette existence provinciale et scolaire, j'allais dire. Oui, c'est ça. Ça ne nous empêchait pas quand même de bien nous amuser, de faire partie des équipes de foot, d'aller à la pêche. Et c'est une ambiance de jeunesse rurale, voyez-vous, de petits villages de province, très différente de la vie de nos jeunes dans les grandes villes ou surtout dans les banlieues de nos grandes villes qui aujourd'hui sont souvent déshumanisées, n'est-ce pas ? Nous, c'était des vies très humaines, très familiales, très conviviales, dont je garde très remarquable souvenir. Je suis très content d'être né à la province, je suis très content d'être provincial et très content même de venir d'un milieu d'enseignants pour qui j'ai beaucoup de respect. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure et c'est peut-être pour ça que je mène ce combat de rapprochement entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise, puisque c'est deux milieux que je connais fort bien pour les avoir vécus tous les deux.
Le mot de transmission a donc dû résonner très tôt en vous.
Oui, c'est ça. On transmet. Il y a une sorte, vous avez raison de dire ça, même dans le milieu de l'enseignement, dans les milieux scolaires, les milieux universitaires, vous savez, il y a chez tous ces gens-là, lorsqu'ils sont consciencieux, l'immense majorité ces professeurs sont très consciencieux, il y a une sorte de devoir de transmission, de devoir sociétal de transmission. On se pense pas tous pour Socrate, n'est-ce pas, qu'il devait avoir des disciples, et nous ne sommes pas tous des Platons, mais nous avons l'impression depuis toujours que lorsqu'on a acquis un savoir, des connaissances et surtout de l'expérience, nous devons les transmettre. Nous n'avons pas le droit de partir sans les transmettre. Et c'est ce qui m'est resté un peu, moi, de l'éducation de mes grands-parents et de mes parents, qui me disaient « si tu apprends des choses dans la vie, sois gentil d'en faire bénéficier les jeunes ». Et c'est ce que je tente de faire depuis des années, moi-même, après avoir été chef d'entreprise. On s'étonne qu'un chef d'entreprise, qui généralement ne parle que de son entreprise, je me sois intéressé depuis si longtemps aux jeunes. J'ai donné beaucoup de conférences et de cours dans les grandes écoles, scientifiques d'abord, commerciales ensuite, et maintenant créer une association jeunesse et entreprise qui me donne d'immenses satisfactions.
Quel genre de petit garçon étiez-vous ? Rêveur, actif, gourmand de la vie ?
Oui, alors, super actif toujours, je sais pas, j'ai toujours deux frères, super actif, un petit peu trop, enfin, un petit peu casse-cou. Et c'est pour ça que, après avoir fait des études assez facilement, sans trop de problèmes, nous nous sommes dit tous les deux, suivant un conseil de notre mère, qui nous avait dit « mais vous êtes deux frères avec des qualités, sûrement des défauts, différents et complémentaires ». Et alors, en réfléchissant un peu, lorsque nous sommes trouvés tous les deux ingénieurs, nous sommes dit « mais alors, si nous sommes complémentaires à nous deux », nous ferions sans doute un bon chef d'entreprise. Ce qui n'était pas faux, n'est-ce pas? Alors, j'ai proposé à mon frère, puisque j'avais l'idée de créer une entreprise depuis mes études, car un des défauts du milieu de l'enseignement, c'est qu'on ignore totalement l'entreprise. J'ai entendu parler pour la première fois de l'entreprise, j'ai entendu prononcer pour la première fois le mot « entreprise » lorsque je suis entré dans une école d'ingénieurs. Avant, je n'en avais jamais entendu parler. Alors, ça a été une telle surprise pour moi, un tel choc, que je me suis dit, quand tu auras fini tes études, tu vas créer une entreprise. Puisque tu ne sais pas ce que c'est, tu vas en créer une. Et j'ai tenu parole, puisque 4 ans après avoir été sorti de l'école centrale de Paris, j'ai proposé à mon frère, qui lui a fait d'autres études d'ingénieur, à l'Institut de Grenoble, puis à l'École supérieure du pétrole et des moteurs de Paris, je lui ai dit, puisqu'à nous deux, nous sommes complémentaires, que toi, tu es un meilleur technicien que moi, et que moi, je suis peut-être plus porté sur les problèmes commerciaux, relations humaines et finances, on pourrait peut-être s'associer. Il m'a dit, pourquoi pas, je te suis. Et voilà comment nous avons eu l'idée de nous associer sur une idée lancée 20 ans plus tôt par nos parents, par ma mère surtout, d'associer deux tempéraments complémentaires. Et voilà pourquoi nous sommes lancés dans la création d'une entreprise à partir de zéro, ce qui en 52 n'était pas courant. C'était même tout à fait exceptionnel, puisque les ingénieurs, les diplômés, de façon générale, ne créaient pas d'entreprise. À cette époque, en 1952, ne créaient des entreprises que ceux qui n'avaient pas d'autres moyens de promotion sociale, c'est-à-dire les autodidactes. Voir un diplômé ou deux diplômés qui avaient de très belles situations, c'est vrai, faut le dire. Moi, j'étais moi-même ingénieur en chef chez Citroën à 27 ans, ce qui était quand même pas courant, puisque le plus jeune après moi en avait 40. Et mon frère, qui avait un an de plus que moi, qui avait 28 ans, qui était également un poste d'adjoint à la direction industrielle de la compagnie des machines Bull, quittait tous les deux des postes très importants qui leur permettraient peut-être, on ne sait jamais, d'arriver au sommet, pour devenir brutalement des artisans de fond de cour, tout seuls, travaillant de leurs mains. Ça a été considéré comme un véritable scandale. Et plus qu'un scandale, une déchéance sociale dont nous avons beaucoup souffert. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon premier livre, Les Hommes en Gris, quelques années plus tard, pour prouver qu'il n'y a pas de déchéance sociale, qu'il n'y a pas de chute sociale, et qu'au contraire, ce métier d'artisan de fond de cour, où on passait d'un métier d'intellectuel à un métier presque manuel, pas tout à fait, j'exagère un peu, parce qu'il était quand même intellectuel, eh bien ce n'était pas une déchéance, mais c'était au contraire une nouvelle forme de promotion sociale, ce que nous avons prouvé par la suite.
Alors, vous nous avez confié il y a un instant que votre mère évoquait des défauts complémentaires entre vous-même et votre frère. Alors, comme ça, à chaud, votre grand défaut et votre grande qualité ?
Ah, ça, vous me posez une question difficile. Alors, je trouverais plus facilement les grandes qualités, vous voyez. Écoutez, les grands défauts, peut-être. Je suis généralement d'un abord aimable, mais je suis peut-être rancunier lorsqu'on m'a vraiment manqué. C'est-à-dire lorsque j'ai perdu confiance. Et moi, je ne peux travailler que dans la confiance totale. Ça m'a pas trop mal réussi, puisque nous avons beaucoup de salariés en qui nous avons confiance. Mais si quelqu'un a trahi notre confiance, je dois dire qu'alors là, je pardonne plus difficilement que faisait mon frère. Mon frère disait, bon, il a manqué. Moi, je disais, non, je suis plus rancunier. Quelqu'un qui a manqué à la confiance, c'est grave, vous voyez. Alors les qualités, ben nous avons, vous savez, pour être créateur d'entreprise, il faut avoir un certain nombre de qualités qui ne sont pas les qualités scolaires universitaires. Et c'est ça qu'on ne sait pas. C'est que les qualités des élites peuvent se décomposer en deux catégories. Vous avez ce qu'on pourrait appeler les qualités de réception, qui sont les qualités scolaires universitaires, c'est-à-dire la compréhension, l'analyse, la synthèse, et la mémoire qui joue un rôle toujours plus important qu'on ne le croit. Et puis, toutes les autres qualités, toutes, sont des qualités que j'appellerais, en électronicien, que j'appellerais des qualités d'émission. C'est-à-dire, l'imagination créatrice, qui est si rare, puisque une personne sur 30 en serait dotée, le bon sens, qui sert à prendre 90% des décisions quotidiennes, quel que soit le niveau, le goût du risque, le goût d'entreprendre, le travail en équipe, le charisme, le dynamisme, l'autorité, la combativité, tout le reste, toutes ces qualités sont des qualités d'émission et c'est celles dont nous avons besoin dans l'entreprise. Beaucoup plus que les qualités d'assurance. Autrement dit, les diplômés, on parle beaucoup de diplômés, il nous en faut, et par bonheur, il y a des diplômés qui ont des qualités d'émission, mais nous privilégions surtout les qualités d'émission sur le diplôme. C'est ainsi que dans des entreprises, même hautement techniques comme la nôtre, qui fait des composants électroniques, même dans ce genre d'entreprise high-tech, eh bien nous avons des autodidactes. Mais des autodidactes de talent qui se sont formés sur le tas et qui ont ces qualités d'émission dont je vous parlais. Donc il faut avoir ces qualités. Je pense que mon frère et moi, nous les avions tous les deux. Voilà les qualités. Excusez-nous d'avoir insisté sur ce point-là.
En continuant notre cheminement à travers ces années de construction, l'enfance, l'adolescence, quelles ont été les rencontres, les lectures, les auteurs qui ont enflammé pendant ces moments de construction votre imagination, votre esprit ?
Écoutez, alors les auteurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi j'étais peu porté sur les auteurs techniques. J'étais à la fois bon en lettres et en sciences. Bon, j'ai fait une préparation aux grandes écoles parce que tout le monde me disait que c'était un peu la voie royale, qu'on était sûr d'avoir une belle situation. Mais j'étais pas un fanatique des sciences. J'étais bon, mais je veux dire, je n'étais pas bon de façon exclusive. J'aimais beaucoup les lettres. J'étais par exemple en maths P. J'étais le seul élève de maths P qui donnait des leçons de latin. Tous mes confrères donnaient des leçons de maths ou de physique, tous. Et j'étais le seul qui donnait des leçons de latin. Alors, je me disais, mais tu es fou, tu t'es trompé de carrière. Bon, parce que j'aimais beaucoup le latin. Alors, bon, j'ai fait des préparations un petit peu rapides, puisque à cause de la guerre, j'ai perdu une année. On s'est caché dans le maquis de nos coins. Là-bas. Vous savez que dans l'Isère, c'était un coin très mouvementé, comme vous le savez. Nous étions obligés de nous cacher dans le maquis, et nous avons perdu un an. Et moi, cette année, je n'arrivais pas à m'en remettre. J'ai essayé de faire les deux années de préparation d'une seule. Ayant sauté maths sup, je suis rentré en maths P, et le proviseur m'a dit, je fais ça parce que vous êtes en tenue kaki, on voit que vous venez de vous battre, mais c'est pas légal, alors vous allez me signer un papier, comme quoi au bout d'un mois, vous redescendrez en maths sup. J'ai signé le papier, bien sûr, et il se trouve que, par une histoire amusante, à la suite d'un concours d'échecs, d'un tournoi d'échecs, je suis tombé sur mon prof de maths, que j'ai par hasard gagné, qui m'a pris en affection, qui m'a dit, je vais vous donner des cours particuliers, et on va faire les deux années en une. Voilà pourquoi j'ai fait maths sup, et bien faire en une seule année.
Grâce à une partie d'échecs.
Grâce à une partie d'échecs, voilà. Alors je suis rentré à Centrale, mon professeur aurait bien voulu que je démissionne pour présenter d'autres concours. Alors, il a considéré ça comme un petit galop d'essai. Mais on ne m'y a pas pris, je suis rentré et je me suis toujours très bien porté. Et je ne l'ai jamais regretté. Je suis rentré à l'école centrale de Paris, et où j'ai fait très bonnes études. En même temps, j'ai fait du droit et même fait une année à l'école du Louvre, vous voyez, l'éclectisme. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses fort intéressantes par la suite.
Avez-vous reçu de la part de vos parents ou grands-parents ou environnement familial une instruction, une conviction religieuse ? Si oui, qu'est-elle devenue par la suite ? Qu'en avez-vous fait ?
Alors, nous étions d'une famille d'enseignants catholiques, ce qui n'est pas si courant que ça, mais assez fréquent dans cette région. Ma mère était très religieuse, ma mère n'aurait jamais manqué sa messe. J'ai eu de tantes, sa sœur, qui a failli d'ailleurs entrer en religion. C'est-à-dire que je suis dans une famille religieuse et pratiquante. Bon, moi je suis resté croyant, je suis resté catholique. Je ne peux pas dire que je suis un pratiquant militant. Enfin, je suis les conseils de ma mère qui m'avait dit, si tu n'y vas pas tous les dimanches, il faut que tu ailles 4 fois par an, à Noël, à Pâques, au 15 août et à la Toussaint. Et je n'ai encore jamais manqué à cette obligation.
Monsieur Gattaz, nous marquons une pause musicale. Nous vous retrouvons dans un instant.
Canal Académie. Thank you. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le plaisir de vous présenter aujourd'hui une émission portrait consacrée à Yvon Gattaz. Monsieur Gattaz, quelles sont vos grandes révoltes aujourd'hui ?
Oh, vous savez, les grandes révoltes sont des révoltes de société, un peu comme tout le monde. Je m'intéresse beaucoup aux jeunes et je suis navré de voir que les jeunes ne sont pas toujours à leur place dans la société, n'ont pas encore bien été assimilés par l'entreprise, n'ont peut-être pas bien compris l'entreprise eux-mêmes, n'ont pas compris les métiers de demain. Je ne dis pas qu'il y a un divorce entre la société et les jeunes, mais il y a parfois une petite incompréhension. Incompréhension d'ailleurs qui a existé pendant des décennies entre les milieux de l'enseignement et les milieux de l'industrie, de l'entreprise. Vous savez, moi j'ai été très surpris lorsque j'ai créé une entreprise, puisque je suis devenu, comme vous le disiez tout à l'heure, le patron des patrons, donc j'ai bien, je crois, assez bien connaître toutes les entreprises françaises, je suis toujours surpris, j'ai toujours été surpris par ce divorce, ou du moins cette ignorance du milieu de l'enseignement, ignorance réciproque. Vous savez, il y a des moments où l'indifférence est pire que l'hostilité. On s'ignore, on ne veut pas se connaître. Or, c'est dramatique, car l'enseignement doit fabriquer, si vous me permettez l'expression, doit former des jeunes pour qu'ils aient un métier et qu'ils trouvent plus tard une insertion professionnelle dans l'entreprise. Donc, il y a une association de fait qui est inévitable. Alors, il faut également que l'entreprise fasse un effort de son côté pour comprendre l'enseignement et pour comprendre les jeunes. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, c'est uniquement pour ça que j'ai créé cette association Jeunesse et Entreprise à la fin de mon mandat de président du CNPF, aujourd'hui MEDEF, au début 1987, il y a maintenant 18 ans,
mais
17 ans.
Où puisez-vous toute cette énergie ?
Oh, ben, c'est pas dans... Vous savez, c'est le congénital, c'est les neurones, c'est... Et puis, je crois, je vais vous dire, je pense qu'on vieillit moins lorsqu'on fait beaucoup de choses, que lorsqu'on ne fait rien du tout. Comme disait le grand-père Marcel Dassault, l'avionneur, il disait, à un certain âge, il est difficile de faire vraiment du sport, les muscles se fatiguent, il n'y a qu'une chose qui ne se fatigue pas, c'est les neurones, il faut absolument les faire travailler.
Mais ne considérez-vous pas tout ce travail, ce combat, comme des sortes d'efforts surdimensionnés par rapport à la lenteur de cette évolution ?
Oui, alors c'est ce que me dit ma femme et ma famille. On me dit, mais tu donnes un mal fou avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Il est exact que si le rendement que j'ai dans mes associations, j'en ai créé beaucoup depuis bien des années, si le rendement était le même dans notre propre entreprise, nous aurions fait faillite depuis longtemps. Mais nous sommes dans des milieux différents. Le milieu d'entreprise doit être un milieu de productivité. Il faut des résultats. Nous sommes notés tous les ans par la dernière ligne du compte d'exploitation, seule note qui est incontestable dans le monde. Les notes d'examen et de concours sont contestables. Cette note-là n'est pas contestable. Et si elle est mauvaise trois années de suite, vous déposez le bilan, vous faites faillite, vous êtes renvoyé. Donc nous sommes le métier chef d'entreprise le plus sanctionné de la Terre. En revanche, dans les associations que j'ai créées, commencé la première, c'était l'association, le GESIR, le groupement des entreprises commerciales de Rosny-sous-Bois. Après, j'ai créé une lettre socio-économique mensuelle, les quatre vérités, avec mes amis Drancourt, Gélinier et Plassard. Pauvre Octave Gélinier ayant, comme vous savez, disparu au mois d'août dernier. Ensuite, j'ai créé le fameux mouvement éthique, dont on parle encore, entreprise de taille humaine, industrielle et commerciale, qui voulait avoir une éthique d'entreprise, une morale d'entreprise, favoriser la création d'entreprise. Ensuite, après, j'ai été élu président du CNPF. Après, j'ai créé plusieurs associations, jeunesse et entreprise dont nous venons de parler. Et puis, j'ai créé le comité d'expiration de Seine-Saint-Denis, 93, que j'ai présidé pendant 10 ans. Et puis j'ai créé l'association des moyennes entreprises patrimoniales pour assurer leur pérennité, leur transmission et leur développement. Donc ça fait beaucoup d'associations et c'est vrai que la plupart ont très bien marché, mais la vitesse de transformation et de résultat d'une association n'est pas la même que la vitesse de production dans une entreprise industrielle.
Est-ce que je peux placer l'esprit cartésien que vous êtes sur le chemin d'une réflexion plus philosophique, plus existentielle? À quoi tout cela sert-il, le sens de la vie? Y a-t-il un projet pour l'univers? Si oui, la place que vous accordez à l'homme dans ce projet de l'univers?
Vous savez, moi je crois qu'il faut, d'abord nous avons tous une philosophie profonde, même si on ne le dit pas tous les jours dans des livres. Moi je crois beaucoup à la vie, je crois que la vie c'est l'espoir. L'espoir. On vit d'espoir. La plus fausse, grande, belle phrase qui a été prononcée, c'était celle qu'on prête à Guillaume d'Orange. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. C'est complètement faux. Complètement. Une très belle phrase, complètement fausse. Il est indispensable d'espérer pour entreprendre. Moi, j'ai beaucoup entrepris moi-même et j'ai vu beaucoup de gens entreprendre autour de moi dans les domaines les plus différents, pas uniquement industriels, bien sûr. On entreprend que si on a espoir. Et c'est cet espoir de la vie, cet espoir de mieux réussir, de faire quelque chose demain, après-demain, dans un mois, dans deux ans, dans 10 ans, qui vous maintient non seulement en activité, mais j'ai presque l'air de dire en survie. La vie, c'est l'espoir. Et ça, c'est une philosophie très profonde. Or, pour conserver cet espoir, il faut faire quelque chose. Car les gens qui ne font rien sont sans espoir. Les désespérés, c'est affligeant, n'est-ce pas? Les gens qui n'ont plus d'espoir en rien, bon, ils n'ont plus qu'une solution, c'est de se suicider. Mais si nous voulons garder l'espoir de vivre, de survivre, il faut faire des choses actives. Donc il faut organiser des choses actives autour de soi. Il faut organiser la vie, il faut organiser l'espoir et donner l'espoir aux autres. Par exemple, aux jeunes. Il est indispensable dans notre vie de donner, de semer l'espoir auprès des jeunes. Le pire, c'est un jeune désespéré. On le voit, ce qui s'est malheureusement produit avec les drogues et autres. Aujourd'hui, nous voulons des jeunes qui croient au lendemain, qui ne le croient pas béatement. C'est pas de l'optimisme béat, c'est de l'optimisme inquiet. Il faut une certaine inquiétude pour être optimiste. C'est-à-dire que l'inquiétude à court terme vous fait faire l'effort nécessaire pour être optimiste à long terme. L'optimisme ne naît que si vous faites l'effort instantané. Il faut donc que l'optimisme soit un petit peu inquiet.
Vous avez déclaré quelque part que le chômage des jeunes était le cancer social. Le chômage des jeunes, avez-vous également dit, est une bombe déjà allumée dont on ne connaît pas la longueur de la mèche.
Eh oui, c'est une bombe allumée. Vous savez, on a beaucoup parlé du grand soir des syndicats, de la fameuse révolution sociale où on brûlerait les patrons, etc. Bon, je n'y crois plus depuis longtemps. Les salariés français ont très bien compris l'économie et très bien compris l'économie de l'entreprise et participent activement à la vie économique de l'entreprise. En revanche, je trouve dramatique sur le plan de la société que des jeunes soient désespérés, que des jeunes ne trouvent pas de métier, que des jeunes abandonnent la recherche de métier, que des jeunes abandonnent la recherche d'études et, par exemple, ceux qui se résignent à faire la manche. Il n'y a rien de plus triste qu'un jeune désespéré qui fait la manche, c'est-à-dire qui vit de la mendicité d'autrui. Ça, c'est dramatique.
En France, sur 8 millions de jeunes, 2 millions d'actifs et 600 000 d'entre eux pointent à la NPE.
Oui, alors, vous savez que dans les actifs, il y a aussi les étudiants. Donc, il n'y a pas plus de chômage chez les jeunes que dans les autres catégories, contrairement à ce qu'on a dit, parce qu'on compte ou on ne compte pas ceux qui font leurs études, n'est-ce pas? Si on enlève ceux qui font leurs études et qui sont des actifs, on s'aperçoit que le taux est le même, par bonheur. Mais enfin, ça ne nous satisfait pas quand même. Un jeune au chômage, c'est dramatique. Il faudrait qu'un jeune ne soit pas au chômage, quitte à ce qu'il fasse des études complémentaires, qu'il fasse une formation, quitte à ce qu'il ait un salaire plus bas. J'avais lancé, quand j'étais président du MEDEF, j'avais lancé l'idée du SMIJ, d'un SMIC jeune. Ça a tellement fait scandale que je l'ai remis dans mon tiroir, n'est-ce pas? Mais j'ai mieux, moi, un jeune moins payé, sous-payé, bien sûr, on me dit que c'est dramatique, qu'un jeune non payé. Et c'est là où je voudrais qu'on fasse quelque chose. Il faudrait que tous les jeunes aient une occupation, quelle qu'elle soit, et généralement formatrice. Mais ça, je crois qu'on y arrivera peu à peu, car cette idée est en train de s'étendre un petit peu dans le monde entier. Elle est difficile à mettre en œuvre, Mais si tout le monde se donne la main, je suis persuadé qu'on y arrivera.
Alors, une autre de vos formules, les autoroutes de la formation sont inquiétantes. Heureusement, tout un réseau de départementales permet d'atteindre l'objectif, même si le parcours est un peu plus long.
Oui, c'est-à-dire, quand je veux dire les autoroutes, tout le monde croit qu'il y a la voie royale de la formation. Et en fait, il y a beaucoup de sentiers qui partent dans les sous-bois et qui reviennent. On peut aujourd'hui monter au sommet de l'arbre des métiers sans revenir au tronc commun des connaissances générales en sautant d'une branche à l'autre. C'est ce que nous appelons à Jeunesse et Entreprise l'arbre des métiers, où le petit écureuil peut monter jusqu'au sommet par bonheur.
Et la formule de l'avenir, ce serait alors un emploi d'abord et la formation toute la vie ?
Absolument. Il faut travailler le plus vite possible, avoir un emploi le plus vite possible. J'aime pas les jeunes qui traînent à vouloir accumuler les diplômes. Et par contre, il faut qu'ils acceptent de faire une formation continue. Nous nous formons tout le long de notre vie à bon âge qui est avancé, comme vous le voyez. J'apprends encore beaucoup de choses et je suis ravi de les apprendre. Il faut une formation absolument continue tout le long de l'existence.
Donc, ce pont incontournable et souhaité entre l'école, entre les universités et puis l'industrie.
Mais bien sûr, il faut un lien, plus pas une passerelle, c'est un vrai pont, c'est un viaduc. Il faut que d'un côté, il y ait l'université, le milieu scolaire, le milieu des parents d'élèves, le milieu des jeunes, tout ce qu'on pourrait appeler le milieu de l'enseignement, le milieu des jeunes et de leurs formateurs. Et de l'autre côté, le milieu de l'entreprise, il faut qu'il y ait un amalgame profond entre ces deux milieux et que les deux milieux se comprennent, que les enseignants comprennent que la formation qu'ils donnent doit servir aux métiers qu'exerceront les jeunes, et les entreprises doivent comprendre, et elles comprennent de plus en plus par bonheur, qu'il est de leur intérêt, je dis bien de leur intérêt bien compris, de s'occuper des jeunes, d'investir dans les jeunes, de donner une formation aux jeunes, initiale ou continue, et que c'est le meilleur des investissements qu'elles peuvent faire, car c'est un investissement, c'est quelque chose qui coûte avant de rapporter, et je peux garantir à mes confrères chefs d'entreprise que rien ne rapporte autant que la bonne formation d'un jeune qui entrera dans l'entreprise plus tard.
Et l'Europe va nous aider à mieux le comprendre aussi ?
L'Europe, on en discute à l'Académie depuis le début de l'année. Les situations sont extrêmement diverses suivant les pays. Je me garderai bien de généraliser. Pour l'instant, je vous parle de ce qui se passe en France.
Vous avez écrit « Les jeunes attendent de nous le langage de la vérité, de l'effort et de l'espoir ». Vous avez deux dates de prochaines rencontres qui nous permettront justement de parler ce langage de vérité, de l'effort et de l'espoir.
Oui, c'est ça. Alors, nous avons le colloque annuel de notre association Jeunesse et Entreprise, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1990. C'est le 10 octobre prochain, aux AGF, rue de Richelieu, avec la présence du ministre M. Borloo. Et puis le 19 octobre, c'est-à-dire quelques jours après, nous aurons le colloque annuel de l'autre association, ASMEP, Association des moyens d'entreprise patrimoniale, qui aura lieu le 19 octobre avec, en présence de M. Sarkozy. Vous voyez, nous avons quelques vedettes politiques qui comprennent à la fois le problème des jeunes et le problème des entreprises.
M. Gattaz, merci. Et en tout dernier mot de cette émission, s'il n'y avait que quelques mots à laisser en héritage à vos enfants, ce seraient lesquels ?
Oh, à mes enfants et à mes petits-enfants, puisque je suis tri-papa et septa-pépé, je leur dirais travaillez et prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, comme disait La Fontaine, mais surtout, ne vous arrêtez pas de travailler et gardez l'espoir. L'espoir, c'est la vie, je l'ai dit tout à l'heure.
Merci, Monsieur Gattaz.